بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى أما بعد En ce jour, le 30 du mois de Sha'ban de l'année 1442 après la hijra de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à environ une demi-heure du maghrib de ce jour, qui marquera donc le début de la première nuit du mois de Ramadan de l'année 1442. Nous entamons le premier cours de notre série de cours sur le commentaire de Ad-Darari Al-Mudiyya, Sharh Ad-Durar Al-Bahiyya, Fil Masail Al-Fiqhiyya, le chapitre du jeûne de l'imam Al-Shawkani, Rahimahullah Ta'ala. Ce livre, dont je propose la traduction approximative suivante, Les étoiles scintillantes, qui est un épître de ce grand savant, cet imam, l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah ta'ala. Comme à mon habitude, au début de chaque explication de livre, de chaque nouveau cours, j'explique la méthodologie que je vais emprunter dans ce commentaire. La méthodologie empruntée dans le commentaire de ce livre sera que pour le cours d'aujourd'hui, je proposerai une introduction concernant le mois de Ramadan, puis le jeûne de manière un peu plus générale, puis une introduction à l'épître que nous allons étudier, c'est-à-dire une introduction à propos de ce livre. Et je vous renvoie vers les cours que j'ai dispensés l'année dernière, à cette même époque, pendant le mois de Ramadan de l'année 1441, sur un bref commentaire du livre Concis jurisprudentiel, Al-Mulakhas al-Fiqhi, de Al-Sheikh Al-Allama Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, que vous retrouverez sur le site Ahl al-Dhikr ainsi que sur la chaîne Telegram, où j'avais divisé les cours en deux parties. La première partie sur un bref commentaire et un résumé du livre de Al-Allama Al-Fawzan, Hafidhahullah. Et la deuxième partie, j'avais rapporté des sujets précis concernant le jeûne. Certains sujets que nous n'avons pas l'habitude d'entendre, détaillés du moins, des sujets que j'avais choisis de différents livres. Et donc chacun des cours dure entre 30 et 40 minutes, et la moitié du cours est consacrée aux commentaires du livre de Al-Allama Al-Fawzan, et la deuxième partie à ces sujets précis à propos de Ramadan, des jours de jeûne, des nuits en prière, de ce qui est en rapport avec la prière de Tarawih, en rapport avec Al-Qunut, le Dua pendant la prière de Tarawih, en rapport avec la lecture du Coran pendant les journées de Ramadan, en rapport avec des sujets précis que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre détaillés de cette manière-là. Je vous renvoie donc à ces cours, sachant que ma méthodologie sera différente dans les cours de cette année, où je me contenterai de commenter, avec les paroles des gens de science, l'épître que nous avons devant nous, le livre de l'imam Shawkani, rahimahullahu ta'ala. Il se peut que dans ce commentaire, je rapporte des paroles qui ont attrait à ces sujets précis, mais pas de la manière détaillée dont je l'ai fait l'année dernière. En introduction ici, parmi ces sujets que j'avais rapportés dans le premier cours, l'année dernière, une chose qui pourrait être estimée comme une ambiguïté répandue chez les gens, le fait que pendant le mois de Ramadan, nous nous devons d'arrêter l'étude et l'enseignement de la science religieuse et nous consacrer à l'adoration et nous consacrer à la lecture du Coran et à la prière de nuit. Ceci est une parole qui est répandue. Je l'avais expliqué en détail, je me contenterai de dire aujourd'hui que cette compréhension erronée provient du fait de la compréhension erronée de l'étude et l'enseignement de la science, qui fait partie des plus grandes adorations, de la chose par laquelle on se rapproche le plus d'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsque l'intention de l'étudiant comme de l'enseignant est bonne et sincère pour Allah tabaraka wa ta'ala. J'ai rapporté dans le cours évoqué précédemment, le cours de l'an dernier, des paroles de nos pieux prédécesseurs montrant cela. Et d'une manière générale, nous voyons que as-sahaba, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui les ont suivis dans le bien parmi at-tabi'in wa at-tabi'in, et les imams de cette communauté sont d'accord sur le fait que l'étude de la science de manière générale, sans particulariser cela à l'ensemble de l'année en dehors de Ramadan, plutôt Ramadan rentre, le mois de Ramadan rentre dans cela, c'est-à-dire le fait que l'étude de la science est une des manières les plus grandioses que l'on a de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, en dehors de Ramadan comme pendant le mois de Ramadan. Comme je vous l'ai dit, j'ai détaillé ce point dans le cours évoqué précédemment, revenez-y. Ceci en introduction au cours d'aujourd'hui. J'ajouterai que l'ensemble de ces cours ne dépasseront pas 30 minutes, Inch'Allah. Les cours de cette année ne dépasseront pas 30 minutes. Une deuxième introduction concernant le mois de Ramadan, puis le jeûne de manière générale avant de rentrer dans un avant-propos concernant le livre que nous allons étudier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad et autres et authentifié par l'imam Al-Albani, dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables rebelles sont enchaînés. Il y a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Et en effet, il ne fait aucun doute que le mois de Ramadan fait partie des saisons d'obéissance les plus importantes, durant laquelle Allah, tabaraka wa ta'ala, multiplie les récompenses à ses serviteurs. Et ce mois béni est une saison inégalable. Et l'heureux est celui qui en aura profité et aura dépensé le plus d'efforts dans l'accomplissement des diverses sortes d'adorations, comme la prière de nuit, l'aumône, la retraite pieuse, la lecture du Coran, l'étude de la science, en plus du jeûne de ce mois qui fait partie des piliers de l'islam. Il ne fait aucun doute que de manière générale, le jeûne occupe une place illustre dans notre religion et que ses mérites sont nombreux, parmi lesquels nous trouvons la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ceci de manière générale, c'est-à-dire que ce hadith ne vise pas le jeûne du mois de Ramadan en particulier, mais plutôt le jeûne de manière générale. Donc dans une traduction approchée, quiconque jeûne un jour dans le sentier d'Allah, Allah éloignera son visage du feu d'une distance de 70 années, rapporté par le Bukhari et le Muslim. De même, le jeûne obligatoire du 9e mois lunaire, le mois de Ramadan, est en effet, comme vous le savez, le quatrième des piliers de l'islam. Et il s'agit d'un mois attendu durant toute l'année par l'ensemble des musulmans du monde. C'est le mois des bonnes œuvres, de la générosité, de la prière de nuit et de toutes ces formes d'adoration que j'ai évoquées précédemment. En effet, nous trouvons dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala à propos du jeûne de ce mois, le jeûne de ce mois qui fut prescrit la deuxième année de l'Hégire. Allah tabaraka wa ta'ala dit à propos du jeûne obligatoire de ce mois, le mois de Ramadan, dans le sens de ces paroles, ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. Il dit aussi, tabaraka wa ta'ala, dans la traduction rapprochée du sens du verset, ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissant. Nous voyons aussi ce hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Umar ibn Khattab, radiyallahu anhuma, qui a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, dans le sens de ses paroles, l'islam est bâti sur 5 piliers. L'attestation que nulle divinité n'est digne d'être adorée si ce n'est Allah et que Muhammad est son serviteur et messager. L'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, l'accomplissement du pèlerinage, ainsi que le jeûne du mois de Ramadan, rapporté par le Bukhari Muslim. Et comme je l'ai évoqué, l'adoration du jeûne n'est pas astreinte au mois de Ramadan. En effet, le jeûne en islam, siyam, désigne, ceci est une définition qu'il est bon de mémoriser, désigne l'abstention intentionnelle de tout ce qui peut rompre le jeûne de l'aube, al-fajr. L'aube qui est désignée ici est l'aube véridique, la deuxième aube. Et entre parenthèses, c'est ceci la différence entre l'aube véridique, la véritable aube, la deuxième aube, le deuxième fajr, el fajr al-sadiq, et el fajr al-kadhib, le fajr mensonger, la fausse aube, la première aube. Ceci, je l'ai détaillé dans les cours dispensés l'année dernière. Je referme la parenthèse. Donc, as-siyam désigne l'abstention intentionnelle de tout ce qui peut le rompre, qui peut rompre le jeûne, de l'aube, al-fajr, l'aube véridique, donc, jusqu'au coucher du soleil, al-maghrib. Ceci est la définition en islam du jeûne as-siyam. Et d'ailleurs, nous trouvons les détails de cette adoration grandiose traités dans les livres de jurisprudence. Et parmi ces ouvrages de référence, il y a l'œuvre de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahimahullah, que nous allons étudier ensemble cette année, Inch'Allah ta'ala, qui est Ad-Darari al-Mudhiyya, qui n'est autre que l'explication de son livre Ad-Durar al-Bahiyya. Donc les deux livres sont de l'imam al-Shawkani, comme je le présenterai d'ici peu, et dont la traduction approximative que je proposais, les étoiles scintillantes projetant la lumière sur les perles magnifiques ornant les questions jurisprudentielles. Bien sûr, nous étudierons le chapitre du jeûne de ce livre important. Pour revenir donc, ou plutôt avant de revenir à la présentation du livre, j'évoquerai simplement quelques hadiths nous montrant l'importance et les mérites du jeûne du mois de Ramadan. Nous voyons que Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, « Il se trouve au paradis une porte que l'on appelle Ar-Rayyan, par laquelle rentrent les jeûneurs le jour du jugement. Personne en dehors d'eux ne rentre par elle. Lorsqu'ils y rentrent, elle se ferme, puis personne d'autre ne rentre par elle. » Unanimement reconnu authentique. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, « Le jeûne est un bouclier et une forteresse renforcée contre le feu. » Rapporté par l'imam Ahmed et jugé bon par Al-Albani. Il rapporte aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui jeûne le Ramadan ou le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. » Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, celui qui veille en prière le mois de Ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. Et ces deux hadiths sont unanimement reconnus authentiques. Il dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, les cinq prières, le Jumu'a au Jumu'a suivant, le Ramadan au Ramadan suivant, sont des expiations des péchés commis entre eux tant que l'on s'écarte des grands péchés, rapporté par l'imam muslim. Abu Huraira, radiallahu anhu, rapporte aussi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Allah, azza wa jal, a dit, toute action du fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi, et je le récompenserai. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de dire, dans le sens de ses paroles, le jeûne est un bouclier. Lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne commette pas de perversion, ni ne dise d'obscénité ce jour-ci. Et si quelqu'un l'injurie, qu'il dise « Je suis une personne en état de jeûne »« Inni mur'un sa'im »« Inni mur'un sa'im » Par celui qui détient l'âme de Muhammad entre ses mains, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Et il y a deux joies pour le jeûneur. La première lorsqu'il rompt son jeûne et la deuxième lorsqu'il rencontre son Seigneur. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le sens de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ce hadith, sa parole dans le sens donc de ses paroles, toute action du fils de Adam est pour lui, sauf le jeûne, il est pour moi et je le récompenserai. Son sens est que le jeûne est une œuvre pure et sincère, exempte d'ostentation, car c'est un secret entre le serviteur et son Seigneur, du fait qu'il est un délaissement et non une action. Le jeûne est un délaissement et non une action, comme la prière, l'aumône et le pèlerinage, qui sont des actions. En effet, il se peut qu'un jeûneur s'assoie avec toi et tu ignores qu'il est à jeun. Il en deviendra ostentateur, bien sûr, lorsqu'il t'en informera. Il t'informera qu'il est à jeun en recherchant à s'en montrer. Ici, dans ce que j'ai évoqué dans ces versets et ces hadiths portant sur le mérite du jeûne et du mois de Ramadan en particulier, et de ses actions méritoires ou des actions méritoires durant ce dernier, il y a un rappel pour le musulman de porter son attention sur cette saison bénite et ne pas la laisser partir sans avoir profité de chacun de ces instants. En effet, Le mois de Ramadan n'est que peu de jours qui se terminent très vite et le joyeux sera celui qui en aura tiré le plus grand profit. Nous pouvons constater qu'il y a des gens qui perdent ce mois en le passant à dormir, manger, boire, de même qu'en suivant des programmes à la radio ou à la télé, des programmes qui sont remplis de choses blâmables et que le diable et ses apôtres sont avides d'utiliser pour détourner le musulman de cette noble saison. Pour finir cette introduction, je vous demande par Allah tabaraka wa ta'ala de ne pas oublier vos frères parmi les pauvres lors de ce mois béni. Prenons exemple dans cela sur votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit, dans le sens de ses paroles, le messager d'Allah était la personne la plus généreuse et il l'était encore plus pendant le mois de Ramadan. De même que Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de ses paroles, celui qui donne à un jeûneur de quoi rompre son jeûne aura la même récompense que lui, ceci en ne diminuant en rien la récompense de ce jeûneur. Rapporté par Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Ici se termine cette introduction concernant les mérites du jeûne de manière générale et les mérites du mois de Ramadan et des actions méritoires durant ce mois. Concernant cet épître que nous allons étudier, donc comme je vous l'ai dit, Ad-Darari Al-Mudhiyya, donc bien sûr le chapitre du jeûne de Ad-Darari Al-Mudhiyya, Sharhu Ad-Darari Al-Bahiyya, fil Masail Al-Fiqhiyya, donc dans la traduction approximative que je propose est les étoiles scintillantes projetant la lumière sur les perles magnifiques ornant les questions jurisprudentielles. Je me contenterai de dire que durant mon explication, l'imam Shawkani a dit dans son livre, parfois je dirais dans Ad-Durar, parfois je dirais dans Ad-Darari. Car en effet, nous allons étudier ensemble et je vais commenter le chapitre du jeûne de ce livre de l'imam Shawkani qui est l'explication même d'un autre livre de l'imam Shawkani qui est Ad-Durar Al-Bahiyya. Donc les deux livres, Al-Matn, puis l'explication, les deux sont de l'imam Shawkani. Je ferai au prochain cours, avant de rentrer dans l'explication du livre, une brève biographie de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, rahimahullahu ta'ala. Donc ces deux livres sont de cet imam. Et j'évoquerai dans mon explication des commentaires de certains parmi les gens de science qui ont expliqué ce livre, que ce soit le Matn, le livre de base qui est Ad-Durar Al-Bahiyya, donc qui est les perles magnifiques ornant les questions jurisprudentielles, ou des commentaires de Ad-Darari Al-Mudhiyya, qui est le charh, donc l'explication même de l'épître de base. Parmi les gens de science qui ont porté leur attention sur ce livre, nous trouvons l'auteur de ce livre, c'est-à-dire que le livre de base, Ad-Durar Al-Bahiyya, a été expliqué, et c'est ce que nous allons étudier ici, par l'auteur lui-même, dans ce livre, Ad-Darari Al-Mudhiyya. Puis nous trouvons son fils, qui est Ahmed ibn Muhammad al-Shawkani, qui est mort en 1281 de l'Hégire. Puis nous trouvons aussi ce grand savant, Siddiq Hassan Khan al-Qinnaoudi, rahimahullah, qui est mort en 1308 de l'Hégire, dans le livre qui est appelé Ar-Rawda al-Nadiyya, dont je rapporterai des passages. Ce livre Ar-Rawda al-Nadiyya, qui est écrit par ce grand savant, Siddiq Hassan Khan, est très important. Et nous voyons que l'imam al-Albani, rahimahullah, a porté son attention sur ce livre et a écrit des commentaires dans la marge de son livre personnel qu'il avait dans sa bibliothèque, qui fut ensuite édité de son vivant. Ar-Rawda al-Nadiyya de Siddiq Hassan Khan, de même que Al-Allama Ahmed Shakir, rahimahullahu ta'ala, rahimahumullahu jami'an. Et je rapporterai des passages de cette explication du livre, sachant que ce livre, de ce commentaire de Ad-Durar al-Bahiyya de Siddiq Hassan Khan, rahimahullah, est un commentaire qui est très proche du commentaire de l'auteur lui-même. Nous voyons qu'il rapporte de nombreux passages du commentaire de l'auteur lui-même sans forcément préciser que ceci est un commentaire de l'auteur. Donc, nous voyons que ceux qui ont expliqué ou ceux qui ont donné des annotations, comme l'imam al-Albani ou l'allam Ahmed Shakir au livre de Siddiq Hassan Khan, Ar-Rawd al-Nadiyya, eh bien, ces annotations s'appliquent elles-mêmes, pour les passages qui sont exactement les mêmes, s'appliquent elles-mêmes donc à l'épître que nous allons étudier aujourd'hui, qui est l'explication de l'auteur, Ad-Darari al-Mudhiyya, puisque donc Siddiq Hassan Khan a pris de l'explication de l'auteur, donc du livre que nous étudions aujourd'hui. Il a pris les mêmes formules à de nombreux passages dans son livre. Donc les annotations de Al-Albani et de Ahmed Shakir à l'épître de Siddiq Hassan Khan tiennent d'annotations pour ces passages qui sont les mêmes au livre que nous étudions aujourd'hui. Donc je rappellerai certains passages. Nous avons ainsi ce savant Faisal Al-Mubarak qui est mort en 1376 de l'Égypte, avec de légers commentaires très concis intitulé Al-Ghurar Al-Naqiyya. Nous voyons aussi Al-Allama Sheikh Zayd ibn Muhammad Al-Madkhali qui est mort en 1435 rahimallah, dans un commentaire très profitable édité il y a peu, dont je rapporterai des passages dans l'étude de ou durant l'étude du livre. De même que parmi nos savants contemporains, nombre d'entre eux, et dont l'Allama Zayd al-Madkhali rahimahullah fait partie, nombre d'entre eux ont donné de l'importance à ce livre. Nous voyons que jusqu'à maintenant, ce livre est étudié dans de nombreux pays et nos savants y prêtent de l'attention. Nous voyons Cheikh Mohammed ibn Omar Bazmoul qui a une explication de ce livre, de même que son frère Cheikh Ahmed ibn Omar Bazmoul qui a lui-même une explication de ce livre, de même que notre Cheikh Khalid Abdurrahman Abu Mohammed Hafidahullah al-Misri qui a aussi une explication enregistrée de ce livre, de même que Cheikh Abdallah al-Najmi Hafidahullah et autres que eux qui ont porté une attention particulière à ce livre de par ce que nous allons évoquer, qui est le fait que ce livre est un livre de jurisprudence qui est simplifié et concis et qui n'est pas basé sur un madhab, sur une école juridique précise. Cette affaire, je la détaillerai au début du cours de mercredi, incha'Allah ta'ala, c'est-à-dire au début du cours prochain. Mais nous voyons l'allama Zayd al-Madkhali, hafidahullah, rahimahullah ta'ala, qui décrit l'épître originale, qui est donc Ad-Durar al-Bahiyya. Il dit, dans le sens de ses paroles, « C'est une épître jurisprudentielle résumée aux énoncés simples. Son auteur a visé, qu'Allah lui fasse miséricorde, le regroupement des points jurisprudentiels dont la preuve est authentique et dont la voie est éclaircie, sans s'arrêter sur les points relevant de la pure opinion ou conditionnés à une école de jurisprudence en particulier. » Ceci est très important, cette parole de l'Allama Zayd al-Madkhali est très important en détail et en présentation à l'épître que nous allons étudier ensemble. De même que le savantissime l'Allama Siddiq Hassan Khan al-Qinnaoudi a dit dans son livre Ar-Rawda al-Nadiyya, il dit « L'auteur ne s'est pas figé sur ce que mentionnent les livres, car le chemin de la vérification minutieuse est large. » Plutôt, il a glissé dans ce livre le conseil pur. Il a extrait le jus de la vérité explicite. Il a amené d'éminentes vérifications scientifiques dont les autres cahiers de science, les autres livres de science, sont dépourvus. Il a indiqué de riches précisions dont même les feuillets des plus grands sont exempts. Ceci est un éloge grandiose de cet imam, Siddiq Hassan Khan. Car ce livre que nous allons étudier est un livre qui est très concis, très résumé. Pourtant, vous voyez cet éloge de ce grand savant, Siddiq Hassan Khan. Enfin, pour terminer, je dirais que nul ne saurait mieux parler de cet ouvrage que l'auteur lui-même. Celui-ci dit au sujet de son livre, dans l'introduction. Certes, dans le sens de ses paroles, certes, lorsque j'ai rassemblé ce résumé que j'ai appelé « Les perles magnifiques ornant les questions jurisprudentielles » Ad-Durar al-Bahiyya, j'avais pour objectif de rassembler les points jurisprudentiels dont les preuves sont authentiques et dont la voie est claire, abandonnant ceux qui ne relèvent que de la pure opinion et qui sont en fait sujets au on dit. Ce résumé comparé aux ouvrages détaillés des livres de jurisprudence est-elle le lingot d'or comparé au minerai du sol ? Comparé au minerai du sol. Comme le sait toute personne dont le pied s'est ancré dans la science et dont la raison, la langue et la plume ont nagé à travers les océans des connaissances. Puis il dit, en expliquant la raison de l'écriture de l'explication de sa première épître, donc le livre que nous allons étudier cette année, un groupe de personnes dotées du sens critique et de la compréhension profonde parmi ceux qui ont croqué dans la science, amenant à l'effort d'interprétation avec la mâchoire la plus forte et les molaires les plus tranchantes. Ce groupe m'a demandé de leur dévoiler la mariée de ce résumé et de la conduire à eux, de sorte qu'ils puissent contempler du regard ses atours. Je leur ai demandé un délai, le temps de corriger ce qui est nécessaire, le temps de corriger ce qui nécessite une correction, de retoucher ce qui demande à l'être, d'argumenter l'avis prépondérant dans les recherches qui en ont besoin, d'éclaircir ces passages confus nécessitant une clarification avec une explication résumée, puisant sa source de la fontaine des ruisseaux des preuves. Devant toi se trouve le livre accompagné de son explication, te laissant les rênes pour en faire l'éloge ou le blâme. À toi qui t'élèves vers le sommet de la minutie scientifique, recouvert des habits de la réussite et de la précision. Je l'ai appelé les perles magnifiques ornant les questions jurisprudentielles. J'espère d'Allah son aide pour le parfaire et qu'il me le rende profitable dans cette demeure et dans la demeure de la paix. Fin de citation. Pour résumer, je dirais, avant de terminer le cours d'aujourd'hui, que nous voyons donc que ce livre est un résumé jurisprudentiel qui ne s'appuie pas sur les avis d'une école juridique en particulier, mais qui est plutôt construit sur les preuves du Coran et de la Sunna. Et ce livre jouit d'une place de renommée remarquable chez les savants, comme je l'ai évoqué précédemment. En effet, on ne saurait compter ceux qui l'ont résumé ou reformulé en vers de poésie, ceux qui ont apporté des précisions ou se sont contentés de son contenu et ceux qui l'ont expliqué et défendu. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.